La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente, harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Puis quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même qui constitue une forme de violence, au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pommes pourries quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mise sur pied par la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chauchaké, Montréal, en terre autochtone non cédée. Nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet.
La police opère avec de nombreux billets et la répression politique représente l'un d'entre eux. Il se manifeste par la manière disproportionnée dont la police s'attaque aux mouvements sociaux progressistes, par le niveau de violence utilisé, l'effectif déployé, la surveillance ou l'ampleur des charges, par exemple. Cette situation est rendue bien visible au Québec par le livre tiré de la Commission populaire sur la répression politique, paru en 2016 et qui avait pour titre « Étouffer la dissidence ». Nous interrogeons dans cet épisode une personne qui a participé à son écriture. Ce qui est intéressant, c'est que les autrices et auteurs de cet ouvrage visaient à faire contrepoids à la Commission Ménard sur les événements de la grève 2012. À la base de cet effort est l'idée qu'il est très difficile de créer un contexte dans lequel les individus peuvent se sentir légitimes de parler des violences, de l'intimidation et des situations difficiles vécues, puisque la société répond généralement à l'agitation politique par « oui, mais tu l'as cherché ». Bref, la Commission Ménard, comme toutes les autres, cache en fait les conséquences réelles vécues par les personnes sur le terrain, sans même compter le fait que c'est souvent la police qui enquête sur la police. C'est ce masque qui sera levé dans cet épisode. J'ai une question assez large pour entamer la discussion. J'aimerais savoir comment ont changé les stratégies policières dans les 20 dernières années à Chauchaké, Montréal ou au soi-disant Québec en général par rapport à l'utilisation de la criminalisation comme outil de répression des mouvements sociaux. Par exemple, pourquoi on ne voit plus de nos jours des charges comme incitation à l'émeute, l'article 64 du Code criminel être utilisé?
Il y a différents changements qu'on peut observer à travers les années, autant dans les stratégies policières que judiciaires. Je dirais que si on part de l'exemple de la loi 64, je pense qu'on peut identifier des périodes où il y a des règlements particuliers qui étaient utilisés par les corps policiers pour soit contrôler, empêcher ou limiter l'action politique dans l'espace public. Ce qui fait en sorte que l'article 64 est plus utilisé en tant que tel, c'est parce qu'il a été contesté après plusieurs utilisations pour faire des arrestations de masse et que les personnes qui l'ont contesté ont gagné. Donc, ça fait des précédents qui indiquent à la police que l'usage discrétionnaire qu'ils faisaient de ce règlement-là est invalide. Ça se peut qu'il y ait des gens qui continuent à le faire, mais en général, ils changent, disons, là, de répertoire légal pour limiter l'action politique comme les manifestations dans l'espace public. Donc, après, ce qu'on a vu apparaître, ça, c'était plus dans le code criminel. Ce qu'on a eu ensuite, c'est des règlements plus au niveau municipal et avec l'utilisation du code de la route, avec le règlement 500.1 et 500.2. Et pour les règlements municipaux, là, c'était plus autour de P6. Mais par ailleurs, dans différentes villes du Québec, c'est un article différent, mais qui disait essentiellement la même chose et qui était utilisé à peu près en même temps dans plein de villes différentes du Québec pour faire la même chose aux différentes manifestations, je dirais plus progressistes de gauche, qu'on identifie à des stéréotypes de radicalité quand on est dans la police. Et ça, ben, ça a été utilisé là, amplement. On peut le voir, entre autres, là, de 2012 à 2015, il y a eu ben, des milliers d'arrestations, des personnes judiciarisées, beaucoup de procès. Et ben, comme le 64, P6, 500.1, 500.2 n'ont pas été invalidés par la Cour, mais l'usage pour limiter l'action politique, pour faire de la répression, du profilage, lui a été invalidé. Une des choses qui va vraiment faire varier, c'est la mobilisation juridique, là. Donc, c'est sûr qu'on le sait, il y a différents règlements qui ont été utilisés, que ce soit code routier, code criminel, donc 500.1, P6, qui ont été largement utilisés dans les dernières années pour les rassemblements publics. Une des choses qui fait en sorte qu'on ne les applique plus, c'est qu'ils sont tombés grâce à la mobilisation. Donc, c'est sûr que l'usage de codes légaux pour justifier une répression politique, une répression policière, d'actions collectives, de mouvements sociaux, elle sert finalement à pouvoir la continuer. Moi, ce que je vois au cours des dernières années, c'est un usage de différents règlements de codes municipaux, plus pour faire une répression individuelle que collective. Donc, non seulement on change de réglementation à cause de ce qui a été démontré en cours, mais on change aussi là, de ce que je peux constater d'échelle en passant de beaucoup d'arrestations de masse à des arrestations plus individualisées lors d'actions collectives dans l'espace public. Et entre autres, dans les différents règlements qu'il y a eu dans les dernières années, il y a eu l'usage de tous les règlements pour aller cibler des personnes qui utilisaient des fumigènes, donc des règlements autour des objets pyrotechniques, le règlement des saltimbanques du Code municipal de Montréal. Donc tout ça, ça a été utilisé envers des personnes qui avaient des fumigènes lors de manifestations. Donc c'est des règlements qui sont utilisés envers une personne qui est judiciarisée, qui a une amende de plusieurs centaines de dollars. Mais aussi, ça a quand même un effet décourageant collectif parce qu'on voit une personne être judiciarisée, être criminalisée, se faire arrêter. Donc, même si tout le monde n'est pas dans une souricière, ça reste quand même un événement de répression collective parce qu'une personne parmi nous se fait quand même arrêter, judiciariser, etc. Donc, les stratégies d'usage d'éléments judiciaires, de règlements, que ce soit criminel, municipal, code de la route, bien, ça reste une même logique d'utilisation de code pour aller soit limiter, empêcher, contrôler l'action politique. Mais ce qui va aller changer, c'est le règlement utilisé. Puis, bien, comme je disais, moi, je vois qu'il y a peut-être un changement dans l'échelle de répression qui est appliquée. Ou entre autres, ben, dans les dernières années, il y a eu énormément de dénonciations des arrestations de masse. Il y a même l'ONU qui s'est positionnée là-dessus par rapport à ce qu'ils voyaient au Québec. La Ligue des droits et libertés aussi l'a amplement dénoncé. Évidemment, la Commission populaire sur la répression politique aussi. Donc, forcément, ça tend à faciliter là, une répression plus individuelle.
Alors que l'on nous dit fréquemment que les lois sont appliquées également à toutes et à tous, il y a des milliers de lois parmi lesquelles la police peut piger pour choisir arbitrairement le chef d'accusation qui sera utilisé contre les manifestantes et manifestants. En fonction du contexte juridique, ce sera attroupement illégal, P6, 500.1. La police fait preuve de créativité quand vient le temps de trouver des accusations bidons pour judiciariser les mouvements populaires. Comment peut-on voir les liens entre les stratégies judiciaires et les stratégies répressives de la police?
C'est difficile de faire en sorte que des procureurs, la couronne, etc., se penchent sur des dossiers où des individus ou des groupes disent qu'il y a du profilage politique ou qu'il y a un emploi de réglementation qui est fait de manière abusive ou inappropriée de la part des policiers ou policières à l'endroit de militants. Donc, il y a plein de dossiers qui pourraient être davantage pris en main, beaucoup plus étudiés d'une manière beaucoup plus rigoureuse, disons, et qui ne le sont pas, alors que dans plein d'autres sphères de la société, il y a plein de dossiers souvent beaucoup plus anodins, qui ne comprennent pas des gens arrêtés, blessés, traumatisés, qui sont beaucoup plus facilement étudiés et remis en question. Donc, c'est un peu là où je peux voir qu'il y aurait un enjeu là, puis un lien direct. Je pense aussi qu'on pourrait le voir peut-être avec à quel point c'est difficile d'avoir de l'information quand on fait des demandes d'accès à l'information pour savoir ce qui s'est passé lors de nos actions collectives ou des éléments pour défendre nos causes, pour défendre les personnes qui font partie de nos mouvements. Ça a été dénoncé tellement de fois, la difficulté d'accès à l'information juridique, que c'est difficile de penser qu'il n'y a pas un intérêt politique là, derrière.
Je crois également que la façon dont le droit est fait actuellement ne sert pas toujours la justice, entre autres à cause de la difficulté d'accès à des avocats, avocates, à des services juridiques, à cause des délais, à cause de la complexité de la tâche également. Je parlais récemment à quelqu'un de la clinique juridique de Montréal-Nord qui ont un programme spécialisé en profilage racial. Et eux et elles développent des outils justement pour aller briser cette difficulté-là, notamment d'accès aux plaintes en déontologie. Donc, c'est un processus qui est difficile, qui est complexe, qui est peu utilisé, qui est même souvent déconseillé qu'on essaye d'en faire usage. Puis un de leurs objectifs, c'est de normaliser finalement la plainte en déontologie, étant donné que c'est par les plaintes en déontologie, par leur nombre, par celles qui sont gagnées, que les services de police vont reconnaître ou non certaines dynamiques. Quelle forme peut prendre l'intimidation des organisatrices et organisateurs avant les événements importants?
Ça, c'était vraiment intéressant de le documenter dans le cadre de la Commission populaire sur la répression politique. Il y a des personnes de plein de villes au Québec qui ont organisé plein de sortes d'événements qui ne sont pas nécessairement très radicaux en tant que tels. La radicalité peut se définir de plein de manières différentes, mais on parle de perturbation à une simple manifestation de quartier en après-midi où des gens avaient des menaces assez soutenues de différents corps policiers au Québec. Donc, des policiers policières qui se rendaient au domicile de personnes qui organisaient des actions pour leur demander des informations, pour les dissuader de faire ces actions-là, qui recevaient des appels. Ça aussi, c'est des personnes, autant des individus, des membres de collectifs, que des personnes salariées dans des groupes communautaires. Il y a différents organisateurs et organisatrices qui nous ont dit avoir reçu des courriels, des visites à domicile, des appels téléphoniques pour leur faire savoir qu'ils étaient écoutés, qu'ils étaient suivis, pour les menacer, pour les décourager. Donc, il y a certaines formes de harcèlement qui sont plus individualisées, disons, envers des personnes précises, là, très actives dans le milieu militant, pas juste de Montréal, là, de différentes villes. Donc, ça prend vraiment plusieurs formes.
Ça tournait beaucoup autour de techniques de dissuasion, de passer à l'action de la part de police envers des personnes qui organisent ou voulaient organiser des actions collectives, des insultes aussi, certaines menaces par rapport à la violence qu'il pourrait y avoir de la part de policiers ou policières ou de faire des arrestations, des choses comme ça.
Dans les autres formes d'effets que peuvent vivre les personnes qui organisent des actions à caractère politique, il peut y avoir une surjudiciarisation, la peur de se réengager, de se remobiliser, un découragement, une peur aussi, également beaucoup de peur. Mais à l'inverse, parfois la répression va radicaliser les personnes qui la vivent parce qu'elles prennent conscience de certains aspects systémiques, par exemple de la violence policière, et ça va permettre un engagement supplémentaire dans la vie politique.
Est-ce que tu crois que la répression policière se produit de manière similaire dans les manifestations de gauche et de droite?
et se produit de manière vraiment différenciée. Je pense qu'au Québec, on en a eu des très bons exemples récemment, entre autres avec la manifestation de 25 000 personnes là, au Stade olympique au 1er mai 2021, où les personnes avaient des propos problématiques. Il y avait des personnes néo-nazies là-dedans avec des casiers judiciaires, des personnes recherchées et elles pouvaient marcher absolument tranquillement. Il y a eu différents actes de violence, de ce que j'ai compris, qui n'ont pas nécessairement été réprimés ou avisés par des corps policiers. Tandis que les manifs, disons, là, de gauche ou progressistes, ou qu'eux identifient comme radicales, le sont beaucoup plus. Puis pas juste pendant la manif, mais avant la manifestation, puis après la manifestation. Pour la gauche, il y a une espèce de continuum qui sert à décourager, faire peur, criminaliser, blesser, qu'on retrouve vraiment pas dans les mouvements conservateurs ou de droite. Puis on l'a vu aussi dans différents exemples à Québec il y a quelques années quand il y avait des manifestations de la Meute, qui est un groupe raciste et de droite, où pendant que des personnes de gauche essayaient de bloquer cette manifestation-là, les policiers policières de différents corps policiers défendaient les personnes de droite, arrêtaient les personnes de gauche. Donc, c'est assez clair là, qu'il y a un biais là-dedans. La chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs groupes au Québec de personnes racistes qui comportent des personnes dans l'armée, des personnes qui ont été dans l'armée, des personnes qui ont été dans les corps policiers. Donc, il y a certaines affinités qui se recoupent à certains égards dans des trajectoires qu'on retrouve pas nécessairement avec la gauche. Là. Fait que le traitement est vraiment différencié. Donc, c'est pas parce qu'on est un groupe qui prend la rue qu'on est réprimé, c'est parce qu'on cible l'idée, l'activité politique et qu'on essaie de la taire.
Comment les règlements sont appliqués différemment face à différents contextes?
Bon, mais tu sais, il y a des émeutes post-match de hockey où il y avait une douzaine de chars qui brûlaient. Il n'y avait pas d'arrestation, il n'y avait pas de lacrymo, il n'y avait pas de personnes passées à tabac. Alors que dans la plupart des événements des dernières années de gauche, il n'y a pas de chars qui brûlent. Et pourtant, il y a ces arrestations-là, il y a des personnes qui sont passées à tabac. Donc, à ce moment-là, encore une fois, c'est pas le fait d'être dans la rue où c'est pas les gestes qu'on pose qui sont adressés par la police, c'est le message qu'on amène dans la société qui est réprimé. Et on peut le voir avec les émeutes autour de la Coupe Stanley, mais pour reprendre mon exemple des fumigènes, ça fait quand même plusieurs personnes dans les deux dernières années qui reçoivent différents constats d'infraction puis qui se font mettre en état d'arrestation pour avoir craqué des fumigènes dans des manifestations de gauche. Mais les groupes qui craquent des fumigènes en manifestation pour aller au stade Saputo voir des matchs de soccer n'ont pas les mêmes constats d'arrestation, alors que c'est les mêmes fumigènes, c'est la même sorte d'action, c'est la même activité, c'est juste pas le même message.
Quels sont les effets de la répression sur les organisatrices et organisateurs politiques?
Il y a plein d'effets différents. Les deux effets principaux que je vois, c'est qu'il y en a un de démobilisation, puis il y en a un de, entre guillemets, radicalisation. Dans le volet démobilisation, vivre de l'intimidation, vivre de la violence, voir des personnes qu'on aime se faire blesser, être judiciarisées en tant que telles, ben ça peut avoir des gros effets de démobilisation. Ça peut avoir aussi ce qu'on appelle un « chilling effect », donc une difficulté à passer à l'action. Donc, c'est pas qu'on n'a plus les mêmes idées, c'est pas qu'on n'a plus envie non plus d'être là, c'est qu'il y a une peur qui ralentit, qui inhibe le passage à l'action puis qui le rend beaucoup plus difficile. Donc, tout ce volet-là, il est vraiment important. Il est très bien documenté aussi par la CPRP. Et c'est pour des personnes qui organisent des actions, autant que des personnes qui participent à des actions collectives souvent, que parfois juste une fois. C'est une histoire qui m'avait beaucoup marquée. Une représentante d'un organisme communautaire qui était venue nous parler de la répression que elle et ses usagers, usagères, avaient vécu lors d'une manifestation en 2012, où il y a une des personnes qu'elle accompagnait qui, dans sa démarche d'empowerment, dans sa démarche d'estime de soi, avait commencé à faire de la photographie et il avait amené son appareil photo qui lui avait coûté cher alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent à cette manifestation-là. Et alors qu'il faisait juste prendre des photos d'un moment de manif plutôt banal, il y a eu un moment où il a commencé à y avoir de la répression. Lui n'était pas habitué, ne savait pas quoi faire, il restait un peu figé. Il s'est fait battre par la police, son appareil a été cassé. Ça a vraiment freiné son élan de travail sur soi, son élan politique, son élan d'implication dans son organisme communautaire. Donc, c'est une personne qui a participé à juste un seul événement puis qui n'était pas nécessairement au fait là, des idées de gauche depuis très longtemps, mais ça a été assez pour casser cet élan-là. T'sais. Et l'autre volet de radicalisation, ben quand on constate qu'on se fait cibler de manière individuelle, qu'on se fait judiciariser, réprimer, ben ça amène à avoir des tactiques où il y a beaucoup plus de systèmes de protection. Fait qu'on peut penser entre autres au Black Bloc, ça n'a pas toujours existé au Québec, mais c'est une stratégie qu'on utilise individuellement puis collectivement pour moins être identifiable, pour être plus en sécurité. Puis ben c'est des choses qui se sont développées en réaction à la violence que les personnes recevaient en faisant de l'action politique. Mais c'est vrai que il y a un profilage ensuite qui se fait en fonction de l'apparence qu'on associe à la radicalité de gauche, à l'anarchisme, etc., qui fait en sorte que dans les milieux militants, on a développé la stratégie de Black Bloc pour se protéger, mais l'apparence des personnes dans les Black Blocs a été utilisée ensuite pour faire du profilage. Donc, il y a une espèce de roue là-dedans où nos mécanismes de protection finissent par être utilisés contre nous par la police, mais aussi par les médias. Donc, dans l'image publique, être une personne habillée tout en noir, tous les débats qu'on a eus sur le masque avant 2020-2021, évidemment, ça a fait en sorte que nos mécanismes de protection étaient utilisés contre nous, ce qui faisait en sorte que ça nous rendait encore plus vulnérables ensuite. Puis c'est vrai que ça peut être démobilisant parce qu'on se dit, quand je me protège pour faire des choses qui correspondent à mes valeurs, je ne suis pas en sécurité, je suis dans une situation de vulnérabilisation. Et quand je ne mets pas ces mécanismes de protection-là, je suis aussi dans une situation de danger. Donc, à ce moment-là, l'espace pour faire des actions qui représentent ses valeurs est vraiment restreint pour beaucoup de monde.
Comment l'équipement technologique de la police permet un plus grand arbitraire, c'est-à-dire maintenir un biais politique dans leur application de la force?
C'est quelque chose qui est difficile à démontrer. Moi, ce à quoi ça me fait penser, en fait, ta question, c'est les mobilisations hallucinantes qu'on a vues pour le définancement de la police, pour la réduction de leur budget, pour le réinvestir dans des programmes sociaux. Et l'annonce il y a quelques semaines d'un investissement de dizaines de millions de dollars supplémentaires à ce qu'il y a déjà pour la police. Ça parle pas nécessairement d'effets discrétionnaires, mais
c'est vraiment une réponse très, très forte et très, très claire à une contestation qui venait de différentes organisations, de différentes sphères de la population, de différentes sphères militantes, et qui proposait aussi plusieurs alternatives réelles. T'sais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un très haut pourcentage d'interventions policières qui servent à gérer des urgences psychosociales, alors que c'est ni leur rôle ni leur formation. Qu'à travers ces interventions-là, il y a plusieurs blessés, il y a plusieurs morts, il y a du profilage également qui se fait. C'est des interventions qui pourraient être faites par des intervenantes qui ne le sont en majorité pas faites. C'est des choses qui sont connues, il y a des statistiques là-dessus, mais on continue quand même à surfinancer la police malgré des contestations légitimes. Donc, ça parle pas nécessairement ce que je viens de dire de pouvoir discrétionnaire, mais je crois que ça démontre bien la force, la puissance du SPVM et de la fraternité sur la ville de Montréal.
Il y a une chose qu'on peut dire qui laisse plus de marge de manœuvre, outre l'interprétation là, du cadre juridique dont j'ai déjà parlé, qui est la militarisation des polices municipales. Et c'est pas anodin parce que ça donne beaucoup plus d'outils différents pour agir de manière discrétionnaire dans les formes de profilage et de répression qui sont faites. Donc, depuis quelques années au Québec, mais ailleurs aussi, là, on constate qu'il y a une militarisation des polices municipales. Ce que ça comprend, c'est une protection de leur corps qui ressemble beaucoup plus à des équipements de l'armée, tout en noir, avec d'énormes protections, alors que les taux de policiers et de policières qui se font blesser sont extrêmement bas. Mais c'est aussi tout le développement d'un arsenal d'armes différentes qui sont utilisées soit en même temps, soit une après l'autre, soit différemment en fonction de leur jugement, et qui laisse beaucoup plus de pouvoir discrétionnaire sur la manière de nous réprimer pendant l'action collective. Fait qu'il va y avoir autant, bon, les fameux bâtons que l'utilisation de leur vélo pour nous blesser, que l'utilisation de leur bouclier pour nous blesser, mais ça va être aussi évidemment les tasers, les flashbombs, les gaz lacrymogènes qui sont utilisés pas seulement pour disperser les gens, mais pour blesser les gens puis pour les décourager de recommencer une action politique. Donc ça, c'est quand même un usage vraiment discrétionnaire de quelque chose qui techniquement n'est pas supposé être fait comme ça et où la militarisation de la police, elle n'est pas justifiable par les statistiques de crimes qu'il y a, que ce soit dans la société en général ou pendant des actions dans l'espace public, là.
Ça cause pis c'est parce que c'est un genre de tu peux pas comprendre. Monsieur le juge, là, 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 fallait m'enlever mes allumettes. Moi j'ai dit hier et dans le palais de justice de Montréal. Pis le feu est merveilleux dans le casino de Montréal. Dans le casino de Montréal. Il faut tuer la laideur des bégonia avec du bon bon à propane, avec du bonbon à remonter le temps, avec des aiguilles dedans, la laideur.
Pourquoi l'abolition de la police et de la prison est la seule solution pour une société plus juste?
Mais il y a différentes choses auxquelles on peut penser quand on pense à l'abolition des prisons et l'abolition de la police pour avoir une société plus juste. Je pense que une des choses qu'on peut avoir en tête, évidemment, c'est tout l'argumentaire qu'on a vu dans la dernière année autour de Defund the Police, mais plus à la base, autour des prisons, ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens qui sont emprisonnés, c'est des personnes racisées, des personnes autochtones, des personnes qui sont dans le système de l'État depuis leur enfance, avec la DPJ, ensuite qui ont été criminalisés comme mineurs, ensuite comme majeurs, et qui, là, se retrouvent dans des proportions hallucinantes en prison. Donc, les personnes emprisonnées ne sont pas nécessairement les personnes les plus criminalisées. Ce sont souvent des personnes vulnérabilisées qui correspondent à différents types de profilage qui sont faits par la police et qui est accepté ensuite par le cadre légal. Donc, il y a aussi toutes les dénonciations des conditions de vie dans les prisons qui certainement ne peuvent pas favoriser qu'une personne soit mieux dans sa peau après. On a juste à penser aux conditions de vie dans la prison pour femmes Leclerc qui sont dénoncées depuis des années que cette prison-là ne devrait pas exister parce qu'elle est insalubre, parce qu'elle est mal faite. Donc, ben, si l'objectif c'est de mettre une personne dans un endroit pour qu'elle travaille sur elle, pour qu'elle se sente mieux et pour qu'elle trouve un moyen qui cadre dans la norme qui est établie dans la société, bien, forcément, ça ne peut pas être un endroit qui la met en danger. Puis en ce moment, les prisons mettent souvent les gens en danger. Puis les personnes qui sont dans les prisons sont souvent les personnes les plus vulnérables. Si l'argumentaire pour avoir... C'est ça, c'est que la police, elle n'a pas toujours existé. La forme de police qu'on connaît, puis son histoire, ça vient avec celle du capitalisme. Puis c'était pour contrôler les personnes des classes ouvrières. Donc, la police n'a pas été développée, le modèle de police qu'on connaît n'a pas été développé pour avoir plus de justice dans le monde. Là, c'est une visée de contrôle. Puis, ben, si on est à gauche, ce qu'on espère, c'est que les gens puissent se sentir bien individuellement et collectivement par d'autres moyens que le contrôle social. T'sais.
Alors qu'on entend souvent dire que la police fait un travail comme un autre, les services policiers sont loin d'être neutres. Ils sont en fait une force politique fortement armée qui tente d'imposer des idéaux politiques en intimidant, en menaçant et en frappant, en blessant ou en tuant des gens, le tout en restant bien évidemment eux-mêmes au-dessus de la loi. Lorsqu'une manifestation ne rassemble que quelques centaines de personnes, il est important de se rappeler que plusieurs personnes sont absentes par peur de subir la répression violente de la police ou parce qu'elles ont subi des agressions, de l'intimidation ou des menaces pour ne pas y participer. Mais au-delà de la force brute, la judiciarisation des mouvements de gauche est une stratégie que le pouvoir sait efficace pour nous démobiliser et nous décourager. En plus des frais juridiques, les militantes et militants voient leur énergie drainée par le processus judiciaire interminable au risque de ressortir de ces dédales avec des dizaines de conditions, un casier criminel ou des probations étouffantes. La police joue un rôle de première ligne dans la répression des mouvements populaires et n'est qu'un rouage de plus dans l'appareil systémique déployé pour nous maintenir enchaînés. En légitimant la place des chiens de garde des systèmes d'oppression au sein de nos sociétés, on lutte activement contre la redistribution de la richesse tout en supportant les politiques des groupes racistes, des complotistes et des intérêts colonialistes et patriarcaux. Malgré tout, les luttes populaires continuent d'obtenir des gains. Et en connaissant nos ennemis, il est possible de mieux planifier nos alliances pour la suite de nos combats. Le Verger au complet prend une pause pour cet été, mais nous serons de retour à l'automne avec d'autres épisodes subversifs.
Moi j'ai la diarrhée dans le casino de Montréal.